Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, qui est mon frère.
Trémolo, bonjour.
Salut.
Comment te portes-tu ?
Très bien. Très heureux de te retrouver pour la rentrée.
Eh bien, je suis également content de te recevoir. De qui ? De quoi nous parles-tu ?
Alors, j'ai choisi de parler de Julio Cortázar, de lire un texte de Julio Cortázar, tiré d'un recueil de nouvelles, comme souvent chez Cortázar, qui s'appelle Les Armes Secrètes.
Un auteur que tu apprécies donc.
Ouais. Bah, surtout pour ses nouvelles en fait, j'ai pas trop lu ses romans, il a des romans qui ont été beaucoup commentés en espagnol, mais que je n'ai pas lu. Les Armes Secrètes, le recueil particulièrement, j'aime beaucoup. Il y a par exemple une nouvelle qui a donné lieu au film Blow Up, Antonioni. Voilà, bah elle est tirée de ce recueil. Et moi, pour une fois, je vais te lire un texte en entier, in extenso. C'est-à-dire que comme c'est une nouvelle, je me suis dit que ça pourrait rentrer dans le format du canard.
Excellente idée, je t'en prie.
Ça s'appelle Axolotl. Une époque où je pensais beaucoup aux axolotls. J'allais les voir à l'aquarium du jardin des plantes et je passais des heures à les regarder, à observer leur immobilité, leur mouvement obscur. Et maintenant, je suis un axolotl. Le hasard me conduisit vers eux un matin de printemps où Paris déployait sa queue de paon après le lent hiver. Je descendis le boulevard de Port-Royal, le boulevard Saint-Marcel, celui de l'hôpital. Je vis les premiers verts parmi tout le gris et je me souvins des lions. J'étais très ami des lions et des panthères, mais je n'étais jamais entré dans l'enceinte humide et sombre des aquariums. Je laissais ma bicyclette contre les grilles et j'allais voir les tulipes. Les lions étaient laids et tristes et ma panthère dormait. Je me décidais pour les aquariums, et après avoir regardé avec indifférence des poissons ordinaires, je tombais par hasard sur les axolotls. Je passais une heure à les regarder, puis je partis incapable de penser à autre chose. À la bibliothèque Sainte-Geneviève, je consultais un dictionnaire et j'appris que les axolotes étaient des formes larvaires pourvues de branchies, de batraciens du genre amblystone. Qu'ils étaient originaires du Mexique, je le savais déjà, rien qu'à voir leur petit visage aztèque. Je lus qu'on en avait trouvé des spécimens en Afrique capables de vivre hors de l'eau pendant les périodes de sécheresse et qui reprenaient leur vie normale à la saison des pluies. On donnait leur nom, espagnol, axolote. On signalait qu'ils étaient comestibles, qu'on utilisait leur huile, on ne l'utilise plus, comme l'huile de foie de morue. Je ne voulus pas consulter d'ouvrage spécialisé, mais je revins le jour suivant au jardin des plantes. Je pris l'habitude d'y aller tous les matins, et parfois même matin et soir. Le gardien des aquariums souriait d'un air perplexe en prenant mon ticket. Je m'appuyais contre la barre de fer qui borde les aquariums et je regardais les axolotls. Il n'y avait rien d'étrange à cela. Dès le premier instant, j'avais senti que quelque chose me liait à eux, quelque chose d'infiniment lointain et oublié, qui cependant nous unissait encore. Il m'avait suffi de m'arrêter un matin devant cet aquarium où des bulles couraient dans l'eau. Les axolotes s'entassaient sur l'étroit et misérable, personne mieux que moi ne sait à quel point il est étroit et misérable, fond de pierre et de mousse. Il y en avait 9, la plupart d'entre eux appuyaient leur tête contre la vitre et regardaient de leurs yeux d'or ceux qui s'approchaient. Troublé, presque honteux, je trouvais qu'il y avait de l'impudeur à se pencher sur ces forces, sur ces formes silencieuses et immobiles entassées au fond de l'aquarium. Mentalement, j'en isolais un peu à l'écart sur la droite, pour mieux l'étudier. Je vis un petit corps rose, translucide. Je pensais aux statuettes chinoises en verre laiteux, semblable à un petit lézard de 15 cm, terminé par une queue de poisson d'une extraordinaire délicatesse. C'est la partie la plus sensible de notre corps. Sur son dos, une nageoire transparente se rattachait à la queue, mais ce furent les pattes qui me fascinèrent, des pattes d'une incroyable finesse, terminées par de tout petits doigts avec des ongles, absolument humains, sans pourtant avoir la forme de la main humaine. Mais comment aurais-je pu ignorer qu'ils étaient humains ? C'est alors que je découvris leurs yeux, leur visage. Un visage inexpressif, sans autre trait que les yeux, deux orifices comme des têtes d'épingles, entièrement d'or transparent, sans aucune vie, mais qui regardait, se laissait pénétrer par mon regard, qui passait à travers le point doré et se perdait dans un mystère diaphane. Un très mince halo noir entourait l'œil et l'inscrivait dans la chair rose, dans la pierre rose de la tête vaguement triangulaire, aux contours courbes et irréguliers, qui la faisait ressembler à une statue rongée par le temps. La bouche était dissimulée par le plan triangulaire de la tête et ce n'est que de profil que l'on s'apercevait qu'elle était très grande. Vue de face, c'est une fine rainure, comme une fissure dans de l'albâtre. De chaque côté de la tête, à la place des oreilles, se dressaient de très petites branches rouges, comme du corail, une excroissance végétale, les branchies. C'était la seule chose qui eut l'air vivante dans ce corps. Chaque 20 secondes, elle se redressait, toute raide, puis s'abaissait de nouveau. Parfois, une patte bougeait, à peine, et je voyais les doigts minuscules se poser doucement sur la mousse. C'est que nous n'aimons pas beaucoup bouger. L'aquarium est si étroit et si peu que nous remuons, nous heurtons la tête ou la queue d'un autre. Il s'ensuit des difficultés, des disputes, de la fatigue. Le temps se sent moins si l'on reste immobile.
Thank you.
Ce fut leur immobilité qui me fit me pencher vers eux. Fasciné la première fois que je les vis, il me sembla comprendre obscurément par leur volonté secrète, abolir l'espace et le temps par une immobilité pleine d'indifférence. Par la suite, j'appris à mieux les comprendre. Les branchies qui se contractent, les petites pattes fines qui tâtonnent sur les pierres, leur fuite brusque, ils nagent par une simple ondulation du corps, me prouvèrent qu'ils étaient capables de s'évader de cette torpeur minérale où ils passaient des heures entières. Leurs yeux surtout m'obsédaient. À côté d'eux, dans les autres aquariums, les poissons me montraient la stupide simplicité de leurs beaux yeux semblables aux nôtres. Les yeux des axolotls me parlaient de la présence d'une vie différente, d'une autre façon de regarder. Je collais mon visage à la vitre, le gardien inquiet toussait de temps en temps, pour mieux voir les tout petits points dorés. Cette ouverture sur le monde infiniment lent et éloigné des bêtes roses. Inutile de frapper du doigt contre la vitre, sous leur nez, jamais la moindre réaction. Les yeux d'or continuaient à brûler de leur douce et terrible lumière, continuaient à me regarder du fond d'un abîme insondable qui me donnait le vertige. Et cependant, les axolotls étaient proches de nous. Je le savais avant même de devenir un axolotl. Je le sus dès le jour où je m'approchais d'eux pour la première fois. Les traits anthropomorphiques d'un singe accusent la différence qu'il y a entre lui et nous, contrairement à ce que pensent la plupart des gens. L'absence totale de ressemblance entre un axolotl et un être humain me prouva que ma reconnaissance était valable, que je ne m'appuyais pas sur des analogies faciles. Il y avait bien les petites mains, mais un lézard a les mêmes mains et ne ressemble en rien à l'homme. Je crois que tout venait de la tête des axolotls, de la forme triangulaire rose et de ses petits yeux d'or. Cela regardait et savait. Cela réclamait. Les axolotls n'étaient pas des animaux.
Chaque fois que je me promenais dans le temps, quand je pouvais me promener à Buenos Aires, et chaque fois que je me promène ici à Paris, seul, surtout la nuit, je sais très bien que je ne suis pas le même qui, pendant la journée, mène une vie ordinaire et normale. Je ne veux pas faire du romantisme bon marché, je ne veux pas parler d'état second. Mais il est évident que ce fait de se mettre à marcher dans une ville comme Paris ou Buenos Aires, la nuit, cet état ambulatoire où à un moment donné on cesse d'appartenir au monde ordinaire, mais situe par rapport à la ville et situe la ville par rapport à moi dans une relation que les surréalistes aimaient à appeler privilégié, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se produit vraiment le passage, le pont, les osmoses, les signes, les découvertes, et tout ce qui finalement a donné une grande partie de ce que j'ai écrit comme roman ou comme nouvelle. Marcher dans Paris, et c'est pour ça que je qualifiais Paris de ville mythique. Marcher dans Paris signifie avancer vers moi. Mais c'est impossible de le dire avec des paroles, des mots, ça. C'est-à-dire que dans cet état où j'avance un peu perdu dans une distraction qui me fait regarder des affiches, des enseignes de bistrot, des gens qui passent, et établir tout le temps de relations qui composent des phrases, de bribes de pensées, de sentiments, tout ça crée un système de constellations mentales et surtout de constellations sentimentales qui détermine un langage que je ne peux pas exprimer par les mots, par les paroles. Thank you.
De là à tomber dans la mythologie, il n'y avait qu'un pas, facile à franchir, presque inévitable. Je finis par voir dans les axolotls une métamorphose qui n'arrivait pas à renoncer tout à fait à une mystérieuse humanité. Je les imaginais conscients, esclaves de leur corps, condamnés indéfiniment à un silence abyssal, à une méditation désespérée. Leur regard aveugle, le petit disque d'or inexpressif, et cependant terriblement lucide, me pénétrait comme un message. « Sauve-nous, sauve-nous !» Je me surprenais en train de murmurer des paroles de consolation, de transmettre des espoirs puérils. Ils continuaient à me regarder, immobiles. Soudain, les petites branches roses se dressaient sur leur tête, et je sentais à ce moment-là comme une douleur sourde. Ils me voyaient peut-être, ils captaient mes efforts pour pénétrer dans le lien pénétrable de leur vie. Ce n'étaient pas des êtres humains, mais jamais je ne m'étais senti un rapport aussi étroit entre les animaux et moi. Les axolotls étaient comme les témoins de quelque chose, et parfois ils devenaient de terribles juges. Je me trouvais ignoble devant eux. Il y avait dans ces yeux transparents une si effrayante pureté. C'étaient des larves. Mais larve veut dire masque, et aussi fantôme. Derrière ces visages aztèques, inexpressifs, et cependant d'une cruauté implacable, quelle image attendait son heure? Il me faisait peur. Je crois que sans la présence du gardien et des autres visiteurs, je n'aurais jamais osé rester devant eux. « Vous les mangez des yeux ?» me disait le gardien en riant. Et il devait penser que je n'étais pas tout à fait normal. Il ne se rendait pas compte que c'était eux qui me dévoraient lentement des yeux, en un cannibalisme d'or. Loin d'eux, je ne pouvais penser à autre chose, comme s'ils m'influençaient à distance. Je finis par y aller tous les jours, et la nuit. Je les imaginais immobiles, dans l'obscurité, avançant lentement une petite patte qui rencontrait soudain celle d'un autre. Leurs yeux voyaient peut-être la nuit, et le jour pour eux n'avait pas de fin. Les yeux des axolotls n'ont pas de paupières. Maintenant je sais qu'il n'y a rien eu d'étrange dans tout cela, que cela devait arriver. Ils me reconnaissaient un peu plus chaque matin quand je me penchais vers l'aquarium. Ils souffraient. Chaque fibre de mon corps enregistrait cette souffrance bâillonnée, cette torture rigide au fond de l'eau. Ils épiaient quelque chose, un lointain royaume aboli, un temps de liberté où le monde avait appartenu aux axolotls. Une expression aussi terrible qui arrivait à vaincre l'impassibilité forcée de ces visages de pierre contenait sûrement un message de douleur, la preuve de cette condamnation éternelle, de cet enfer liquide qu'ils enduraient. En vain essayais-je de me persuader que c'était ma propre sensibilité qui projetait sur les axolotls une conscience qu'ils n'avaient pas. Eux et moi, nous savions. C'est pour cela que ce qui arriva n'est pas étrange. Je collais mon visage à la vitre de l'aquarium. Mes yeux essayèrent une fois de plus de percer le mystère de ces yeux d'or, sans iris et sans pupille. Je voyais de très près la tête d'un axolotl immobile contre la vitre. Sans transition, sans surprise, je vis mon visage contre la vitre. Je le vis hors de l'aquarium. Je le vis de l'autre côté de la vitre. Puis mon visage s'éloigna et je compris. Une seule chose était étrange, continuer à penser comme avant, savoir. Quand j'en pris conscience, je ressentis l'horreur de celui qui s'éveille enterré vivant. Au dehors, mon visage s'approchait à nouveau de la vitre. Je voyais ma bouche, aux lèvres serrées par l'effort que je faisais, pour comprendre les axolotls. J'étais un axolotl, et je venais de savoir, en un éclair, qu'aucune communication n'était possible. Il était hors de l'aquarium. Sa pensée était une pensée hors de l'aquarium. Tout en le connaissant, tout en étant lui-même, j'étais un axolotl et j'étais dans mon monde. L'horreur venait de ce que, je le suis instantanément, je me croyais prisonnier dans le corps d'un axolotl, transféré en lui avec ma pensée d'homme, enterré vivant dans un axolotl, condamné à me mouvoir en toute lucidité parmi des créatures insensibles. Mais cette impression ne dura pas, une patte vint effleurer mon visage, et en me tournant un peu, je vis un axolotl à côté de moi, qui me regardait, et je compris que lui aussi savait. Sans communication possible, mais si clairement. Ou bien j'étais encore en l'homme, ou bien nous pensions être des êtres humains, incapables de nous exprimer, limités à l'éclat doré de nos yeux, qui regardaient ce visage collé à la vitre. Il revint encore plusieurs fois, mais il vient moins souvent à présent. Des semaines se passent sans qu'on le voie. Il est venu hier, il m'a regardé longuement et puis il est parti brusquement. Il me semble que ce n'est plus à nous qu'il s'intéresse, qu'il obéit plutôt à une habitude. Comme penser est la seule chose que je puisse faire, je pense beaucoup à lui. Pendant un certain temps, nous avons continué d'être en communication, lui et moi, et il se sentait plus que jamais lié au mystère qui l'obsédait. Mais les ponts sont coupés à présent. Car ce qui était son obsession est devenu un axolote, étranger à sa vie d'homme. Je crois qu'au début, je pouvais encore revenir en lui, dans une certaine mesure. Ah, seulement dans une certaine mesure. Mais maintenant, éveillé son désir de mieux nous connaître, maintenant, je suis définitivement un axolote. Et si je pense comme un être humain, c'est tout simplement parce que les axolotes pensent comme les humains, sous leur masque de pierre rose. Il me semble que j'étais arrivé à lui communiquer cette vérité les premiers jours lorsque j'étais encore en lui, et dans cette solitude finale vers laquelle il ne revient déjà plus, cela me console de penser qu'il va peut-être écrire quelque chose sur nous. Il croira qu'il invente un conte, et il écrira tout cela sur les axolotes.
Le choix de ce texte
C'est un texte qui m'a beaucoup plu dès la première lecture. Une nouvelle étonnante avec une chute. L'histoire n'est pas. L'histoire est simple, mais en même temps mystérieuse et énigmatique. On a l'impression que celui qui va devenir donc un axolote n'aura plus de contact avec l'extérieur, et puis finalement il continue à penser à celui qu'il a été et en même temps à celui qui lit, à se lire à nous dans cette dernière phrase. Et je trouve que c'est une pirouette qui fait un peu tout le charme de cette nouvelle. Comme beaucoup de nouvelles, il y a toujours une chute à la fin qui, enfin souvent une chute qui est intéressante, qui fait la traite de ce genre.
Que dire sur le style en soi de Cortázar ?
Ben, c'est une traduction, donc je sais pas.
Tu l'as pas lu en aztèque dans le texte ?
Je l'ai pas lu en aztèque, non. En fait, ce qui est, si on regarde un peu plus de près l'histoire, on voit que tout arrive par toutes petites touches. Quand il commence à dire qu'il est un axolote au début, il y a juste cette affirmation, et c'est un peu intéressant de regarder comment tout au long de la nouvelle, par des petites incises, Cortázar nous fait basculer finalement avant la bascule finale dans le corps de ceux qui l'observent. Donc c'est stylistiquement, comme tu disais, j'ai pas lu en espagnol, mais après, il y a des procédés dans cette toute petite nouvelle qui sont intéressants à repérer. On peut la relire en regardant ça et en prenant plaisir à voir cette façon qu'il a de nous piéger, en fait, petit à petit.
Très malo, merci.
Merci.
À bientôt.